êtes des dieux, oui ou non?
Bah, on est peut-être des dieux, mais nous, on type la cellule.
Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, je suis avec les experts. Les experts anciens, j'ai nommé Vincent Mainviel. Vincent, ça va la pêche?
La patate.
Je suis avec François Néron.
Salut.
Je suis avec Garrick Nimble.
Bonjour.
Je suis avec Jérôme S. de Poitiers.
Yeah.
Et il y a Vivien Féasson dans le public qui interviendra peut-être.
Exactement, dans le public.
Vous êtes les uns les autres des gens qui participaient à un forum, à un petit forum privé dont on a eu l'occasion de parler, mais aussi au forum public de Sens, qui s'appelle le Cube, et dans lequel vous avez tout un tas de théories. Et souvent, dans le Cube, entre vous, dans vos conversations privées et même publiques, je vous entends très souvent dire « Ouais, mais là, c'est ta ruine de Cosmo qui parle. » Ou « Ouais, mais là, t'es un peu mifos. Oh, qu'est-ce qu'il est mifosien, celui-là » D'où le sujet de podcast que je vous propose aujourd'hui. Que représente Mifos Quadria et la ruine de Cosmo dans nos sociétés contemporaines? Et pourquoi est-ce que vous vous le balancez comme ça à la tronche, comme une espèce d'insulte? Qu'est-ce que tu veux dire, François? Qu'est-ce que tu veux dire, Vincent? Qu'est-ce que tu veux dire, Jérôme? Qu'est-ce que tu veux dire, Gary, quand tu dis de quelqu'un qu'il est un mifosien ou là, c'est sa ruine de Cosmo qui... Qu'est-ce que vous voulez dire?
On est d'accord que c'est pas le podcast Foire d'Empoigne. On doit rester civilisé, on se bat pas tout de suite. On...
Oui, enfin, c'est un
suite.
Podcast de la cellule quand même.
C'est forcément une foire d'empoigne.
Alors, déjà, Vincent, tu te tais.
Alors voilà, déjà, ça commence bien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qui représente ce personnage? Qu'est-ce qu'elle représente, la ruine de Cosmo? Qu'est-ce que ça veut dire?
Les gens chiants.
Qui est mifosien autour de cette table?
Garrick. Vu que j'étais automatiquement bombardé mifosien dans le groupe, oui.
Ok, alors pourquoi vous dites de Garrick qu'il est un mifosien?
Parce qu'il défend Mifos, souvent.
Et alors?
C'est quand même la raison essentielle.
Défendre l'indéfendable...
Qu'est-ce qu'il a d'indéfendable, Mifos?
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on se prépare à excuser l'inexcusable.
Ça, c'est de la belle rhétorique.
Merci.
On croira entendre Manuel Valls.
C'est QFD.
Mais... Donc, qu'est-ce que vous voulez dire, finalement?
En fait, pour moi, je vais être honnête, je tiens à préciser que je nierai avoir tenu ces propos en public et que sur le Cube, je ne les tiendrai plus jamais. Mifos, c'est la deuxième face d'une médaille qui est nécessaire à Sens, qui est la partie sensée du monde. En fait, je vois le Cosmo comme tout ce qui est explication scientifique et je vais dire tout ce que je déteste dedans, c'est de la magie dans Sens. C'est-à-dire que le Cosmo...
C'est l'anti-magie plutôt, voilà. Ah,
c'est de la magie. Le Cosmo désenchante le monde en l'expliquant de manière sûre et absolue. À une certaine époque, c'était ça la magie. C'était l'explication à tout. La foudre, c'était la colère des dieux. La reproduction des plantes, c'était un dieu qui voulait que pousse un arbre à tel endroit. Et ça, c'est un désenchantement du monde. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de démarches scientifiques, mais sont des scientistes. Je ne parle pas des scientifiques eux-mêmes, je parle du commun. Y a un exemple qui avait été donné dans un podcast et qui est très très vrai, sur le téléphone portable. Il y a un écran tactile. Tout le monde sait comment fonctionne factuellement un écran tactile. Si on demande aux gens la science qu'il y a derrière, ils s'en foutent. Ça ne les intéresse même pas de le savoir. Ce qui les intéresse, c'est de poser leurs doigts sur un écran et que ça bouge. Mmh. Et là, on est dans un processus, pour moi, qui relève de la magie. C'est-à-dire que la science cherche à expliquer les choses. Les gens pensent que la science prouve les choses. Et c'est complètement différent. À partir du moment où quelqu'un passe à la télé habillé en blouse blanche et dit « j'ai fait des études qui démontrent que il peut dire ce qu'il veut derrière, c'est accepté par la majorité des gens. »
Et donc Mifos représente
ça.
Non pas la science, mais le dogmatisme ou le scientisme qui lui est associé, c'est bien ça?
Exactement.
Exactement. La ruine de Cosmo est la ruine des absolus et de la foi en ces absolus. En fait... ça relève du scientisme dans un monde où la science domine.
Dans un monde extrêmement religieux.
Dans un monde extrêmement religieux, les cosmos sont les prêtres.
Ah ouais, c'est
intéressant. Et en fait, je pense qu'on peut.
Je suis tellement pas d'accord avec vous deux.
On peut aussi faire un comparatif. J'ai pas encore lu les livres, mais dernièrement, j'ai vu des articles qui parlaient de Fondation, le livre d'Asimov. Et les techno-prêtres relèvent de cet ordre-là, parce qu'ils sont dans une adoration de la science qui relève du religieux. En fait, quand on accuse quelqu'un d'être cosmo, au final, l'accusation qu'il y a derrière, c'est d'avoir une foi aveugle en quelque chose.
C'est un
Garrick.
Ça fait un peu de temps que j'ai lu...
Et de trancher de manière absolue.
Ça fait un peu de temps que j'ai lu Asimov. Mais dans mes mémoires, les technoprêtres, en fait, sont bien conscients que... Ils se donnent le rôle de prêtre de la technologie. Eux, ils savent comment marche la science derrière. Mais ils se servent de ça pour, en gros, asseoir l'influence et l'autorité de leur civilisation sur le reste de l'univers. Eux-mêmes ne vénèrent pas plus la technologie que ça. Pour eux, c'est un outil. Moi, de mémoire, je dis alors, peut-être une bêtise.
Moi, je ne l'ai pas lu, mais dans l'émission que j'avais vue, il disait que les prêtres eux-mêmes étaient ignorants de la science qu'ils utilisaient. Que c'est une erreur, mais
Jérôme, tu veux répondre.
C'est d'extra crédits.
Tu veux répondre.
Ouais, vous avez vu la gueule des immortels ? Ils sont tous absolus. Regardez la secte à Pierre Rabhi, la biodynamie et toutes leurs conneries. Ils sont dans plutôt rune de vie ou de chaos, et ils sont parfaitement dans l'absolu aussi avec leur truc de colibri. Enfin, il n'y a pas besoin d'être cosmo pour être sectaire et absolu, je trouve.
Et dogmatique au final.
Et dogmatique, ouais, tout à fait.
Donc, ça veut dire que ça reste quand même un dogmatique appliqué à une certaine vision de la science. Si on résume un peu ce qui a déjà été dit là. Premier élément.
D'explication du monde, éventuellement. Plutôt.
D'explication du monde, d'accord. Si on résume un petit peu ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc, alors, en fait.
J'ai envie d'ajouter encore un truc. Il y a aussi dans le cosmos une réduction du monde à ce qu'il a de physique.
À ce qui
existe et à ce qui est perceptible, voilà. Et à la réduction de l'identité personnelle à une partie du monde, du monde physique.
Une forme d'ultra-physicalisme, quoi.
Encore une fois, je suis pas d'accord. Les cosmos, c'est aussi les spinozistes qui vont considérer que les lois de la nature sont la base de, qui vont adorer le fait que tu peux découvrir des lois physiques uniquement par la logique. Et ça, c'est pas quelque chose de concret et tangible, mais ils vont l'adorer aussi. Pour moi, ils sont pas forcément uniquement dans le matérialisme.
C'est quelque chose qui est complètement extérieur à la conscience, en fait. La logique, à ce moment-là, devient quelque chose d'absolu, d'universel. Il y a une volonté de se séparer de la subjectivité chez le cosmos.
Là, déjà, je suis un peu plus d'accord. Là.
De rester factuel.
Vincent.
Tout voir à travers les faits. C'est ça qui désenchante le monde, en fait. Seuls les faits existent. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation.
Vous parlez de mythos, pas du cosmos, là. Mais oui, je suis d'accord.
Donc, Vas-y, Gary, je
vais te donner un petit peu mon point de vue sur le sujet.
J'allais te passer la parole pour ça. Ouais.
D'accord.
Parce que pourquoi est-ce que toi, tu te revendiquerais ? Parce qu'on voit bien qu'ici, tous mettent des vertus négatives au cosmos. Quel intérêt il y aurait alors à se revendiquer de cette rune ou à augmenter cette rune ?
Je me revendique pas tant que j'ai peut-être aussi un métier et je suis informaticien, donc la machine qui répond aux ordres de façon purement déterministe, bon, faut faire face, hein, c'est quand même assez cosmo comme attribution, quoi. Quelque chose qui est bien en ordre, bien organisé.
C'est une machine aussi. Faut pas oublier ça.
Alors, selon moi, j'aime bien faire une distinction entre le cosmos et Miphos.
Ah, d'accord, ça c'est intéressant.
Pour moi, le cosmos, il témoigne d'une volonté d'atteindre un absolu. Le cosmos, c'est la rune qui va vers l'absolu, vers la vérité, avec un grand V.
Oui, mais avec une démarche... Alors, excuse-moi, mais là, je suis d'accord avec Jérôme pour dire que toutes les runes tendent vers l'absolu. Mais c'est juste que le cosmos a cette particularité de vouloir y tendre à travers une démarche rationaliste.
Oui, voilà. La différence, alors, c'est que selon moi, on ne peut pas être vraiment cosmo sans accepter. On ne peut pas être vraiment cosmo sans accepter qu'en fait, au fond de soi, on est chaos. C'est-à-dire que un scientifique qui veut découvrir quelque chose, il veut savoir une vérité. Mais comment il va essayer de savoir une vérité ? Il va faire une théorie et il va essayer de prouver qu'il a tort. Et quand il n'arrivera pas à prouver qu'il a tort, il va se dire « j'ai peut-être quelque chose de vrai ». et ça va être vrai jusqu'à ce que quelqu'un lui prouve qu'il a tort, et ça arrivera un jour ou l'autre.
La théorie popperienne dont on parle très souvent, de la falsifiabilité.
Mais pour moi, tout ça, c'est Cosmos. C'est une approche très rationnelle. Effectivement, il y a une volonté d'enlever sa subjectivité, de sortir de soi-même pour comprendre comment sont les choses. Et moi, je vais faire un peu une opposition à... sans faire une opposition, mais pour moi, je fais une distinction avec ce qu'est Miphos, parce que un individu normal qui serait Cosmos serait obligé d'accepter qu'il est chaos, parce que un individu est limité, ne peut pas accéder à une vérité, même par... Il est... La rationalité parfaite, ça ne peut pas être lui. C'est pas accessible à l'humain, une rationalité parfaite. Miphos est défini comme quelqu'un de parfait dans le cosmos. Donc c'est quelqu'un qui serait une incarnation de la rationalité. Et alors pour le coup, le portrait qui est dépeint d'une rationalité parfaite, il est quand même extrêmement négatif. Miphos, c'est quand même pas quelqu'un qui inspire la confiance et la joie et la bonne humeur, quoi.
Comme tous les immortels de sens, il est en manque de câlins.
Oui. Non, c'est effectivement. Quasiment tous les personnages principaux de sens, c'est l'histoire de comment plus de câlins et plus d'amour, ça aurait rendu les choses beaucoup plus simples.
Par contre, il y a un point sur lequel je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est quand tu dis que pour être Cosmo, il faut accepter son chaos. Je dis pas que dans la réalité, tu as tort, parce que je suis assez d'accord avec toi. Je parle du monde de sens, là, vraiment. Il faut pas oublier que les runes sont bornées. C'est-à-dire que au plus tu as de Cosmo, au moins tu as de chaos. Donc ça signifie bien que les deux sont antagonistes et ne sont pas conçus pour cohabiter dans la même personne. Et je pense que les personnes chez qui ça cohabite sont des personnes qui ne se sont pas encore trouvées. Certes, Miphos, comme l'ensemble des immortels, est une exagération, c'est l'incarnation d'une rune, c'est un avatar d'un aspect de sens.
Une allégorie, ouais,
tout à fait.
Ouais. Une caricature.
Mais je pense que c'est probablement la meilleure de toutes. Toutes les allégories, Miphos est la meilleure représentation de sa rune. Parce que pour moi, dans toutes les runes, il y a beaucoup d'autres choses. Sauf chez Miphos.
Je pense qu'en fait, c'est que dans Miphos, il y a beaucoup de néant. Et comme on n'arrive pas à bien définir ce que c'est que le néant, on n'y voit que le cosmos. Mais je pense que dans Miphos, c'est quelqu'un qui, pour moi, est énormément de cosmos, mais vraiment beaucoup de néant aussi.
Je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi une part de créa chez Miphos, malgré tout. Je pense aussi.
Il crée plein de petits robots.
Tout à fait. Là, je suis complètement d'accord. Quand on dit le temple froid, et ça aussi, c'est un peu coupable des premières saisons de la cellule. Hein. Première saison, deuxième saison, vous associez au passé, vraiment de façon très forte, le temple froid, la logique froide du cosmos.
Moi, je le souscris encore aujourd'hui à ça.
Ouais, mais en fait, là, tu es en train de vider le néant de sa substance. Classicien.
Pourquoi tu dis ça?
Attends, bah parce que c'est la froideur et le pas d'émotion face au monde, c'est le néant, c'est pas le cosmos. Ou alors le néant ne sert plus à rien.
Je suis pas d'accord.
Bah, c'est ça qui te permet d'avoir des points qui font que tu ne perds pas de santé mentale, grosso modo. C'est « Oh, ça, oh, ça va ». C'est ça le néant, c'est pas le cosmos. Hein.
Ça, c'est de la dénégation.
Ah non, non, c'est le fait que non, j'ai suffisamment de santé mentale pour que ça me touche qu'à peine. C'est pas de l'acide. Hein,
C'est pas du tout comme ça que je le vois. Hein.
Alors en fait, l'expression vient de la citation wittgensteinienne du « Mon idéal est une certaine froideur, un temple qui sert d'enceinte aux passions sans y intervenir ». Donc voilà d'où vient le terme froideur. Donc il faut remettre dans son contexte, c'est-à-dire l'idée c'est de trouver une espèce de modèle qui décrirait de façon parfaite la réalité et qui permettrait aux émotions d'émerger sans pour autant y intervenir. C'est-à-dire c'est l'idée d'un système complètement froid, mais qui permet en fait aux émotions à l'intérieur d'elles de pouvoir s'exprimer et de pouvoir exister, etc. Je pense, alors là je fais de l'interprétation wittgensteinienne un peu, j'ai pas relu, enfin il faudrait s'y replonger, mais je pense que il parle de la logique, il parle et du langage d'une manière générale qui décrit le monde des faits. Et dans l'idée, Wittgenstein est dans l'idée que ce langage, le langage que nous utilisons quotidiennement est fait pour décrire le monde et qu'il ne permet pas efficacement de décrire les émotions. Donc ce langage, en même temps, qui sert à décrire le monde, la prison dans laquelle on vit, est aussi notre seul moyen de décrire des émotions qui, elles-mêmes, ne peuvent être décrites à travers ce langage. Je pense qu'il y a quelque chose de ça. Mmh. Et puis j'arrive pas à ne pas y voir l'indifférence, le concept d'émergence.
Mais sur l'indifférence à la souffrance du monde, etc., le fait que le monde ne l'atteint pas.
Non, c'est pas le monde qui ne l'atteint pas. C'est l'existence humaine.
Ouais, mais pour moi, ça reste du néant.
C'est bien différent. Oui. Je sais que la rune de néant chez Mipho, c'est très, très élevé. C'est clair et net. C'est peut-être sa rune secondaire. Non, mais c'est certainement sa rune secondaire. Ça, il n'y a pas de doute. De la même manière que la rune secondaire de Finnfinger, c'est peut-être la vie. Contrairement à ce que... Bon, c'est, tu vois, c'est... Parce que tu oublies, Vincent, dans ta description que tu as faite à Gary tout à l'heure des oppositions, que l'amour, les liens, permettent de voir... en un même individu, des runes coexistaient à 100%, par exemple, en extrapolant. C'est pas parce que tu passes à 52 en mort que tu passes à 48 en vie. Si tu as des liens, tu peux aller au-delà de tes limites naturelles.
Là-dessus, je voudrais rappeler, dans le cadran, donc dans la sculpture qu'on trouve dans Néant, les runes, par exemple, d'eau et de feu, elles se regardent, elles se défient, voilà, il y a un peu d'amour. Mais alors, la rune d'ombre et de lumière, elles sont enlacées. Mmh. C'est presque fusionnel, la relation entre l'ombre et la lumière. Et moi, je trouve ça vraiment là, dans le cosmos et le chaos. C'est-à-dire que il y a une espèce de fusion entre ces deux runes. Quoi.
Alors, Vincent, vas-y.
Pas enlacées. Elles sont fusionnées.
Elles sont fusionnées.
C'est-à-dire qu'il y en a une qui est en train de manger l'autre.
Ah, non, c'est un être à deux têtes.
Il y en a une qui prend le dessus sur l'autre. Pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment... Mais c'est ma lecture. Et ça, je sais que c'est indéfendable.
Pourquoi tu fais cette lecture-là ?
Pour moi, Mipho est une victime. Il est victime de Wilfried. Wilfried le manipule depuis pas mal de temps, depuis qu'ils ont commencé à échanger des lettres. Mm-hmm. Parce que Wilfried peut le faire. Wilfried a quand même un petit tempérament de gamin qui a souffert. On le compare souvent en rigolant à un ado émo. Ouais, je veux un scooter.
Une moto, s'il te plaît.
Ouais, une moto, parce qu'il est plus cool.
Quand même.
Et je suis persuadé que Mipho est tout autant victime de Wilfried que le reste de cet univers. Je ne dis pas que Mipho c'était quelqu'un de bien à la base, je dis que Wilfried en a fait son pantin. C'est ma vision.
Je ne souscris pas forcément à cette théorie, cependant, ça pourrait peut-être expliquer la créature d'ombre pure que Mipho se voit briser le vitrail.
Là-dessus, c'est cette fameuse... Alors pourquoi ? D'abord, Wilfried, on sait qu'il est capable d'écrire des lettres et des mots qui sont à même de manipuler la psyché des individus qui le lisent.
La geste, c'est ça ?
Voilà, ouais. L'équivalent, on va dire, des arts magiques.
C'était l'agone.
Non. C'est la geste dans les arts magiques d'agone.
Ah, pardon.
Mais, enfin, voilà, c'est... Alors après, je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus exactement des effets que la geste provoque dans agone. Mais en tout cas, dans ce sens, c'est clair qu'elle a cet effet de manipulation mentale. Et donc, comme on sait que Mipho et Wilfried sont en communication via des lettres, on suppose que dans les lettres de Wilfried influence Mipho pour obtenir de lui certains effets.
Après, autre question là-dessus, qui lit les lettres de Wilfried ? Parce que Mipho, il est là depuis combien de temps dans... Enfin, si on est en spoil, complet sur...
Oui, voilà. Bah, de toute façon, ça peut être intéressant.
Mipho, il est branché à cet ordinateur depuis que, globalement, les bugs sont nés.
Lesquels ?
Les bugs de Rebirth, parce que les ordinateurs ont été mis à jour et la rune de vie a donc été retraduite par Hydrogène au moment de l'installation des ordinateurs sur Jupiter Alpha. Et c'est à ce moment-là que Mipho, du coup, s'est branché sur Jupiter Alpha. Donc depuis ce moment-là, Mipho n'est présent dans la FDSS que sous l'avatar de ses clones.
Ah, c'est fou, t'arrives à dater ça. Ah ouais, et pas au moment de la création des premiers bugs.
Alors, je sais pas si Mipho s'était déjà branché et inanimé à ses ordinateurs avant, mais en tout cas, il l'est au moins depuis ce moment-là.
D'accord, ok.
Je pense.
Donc tu t'interroges sur le fait, est-ce qu'il n'y a pas d'abord un clone de Métallique?
Du coup, en fait, qui est manipulé par Wilfried à ce moment-là? Alors, est-ce que Wilfried ne manipulerait pas juste des clones?
Je pense pas qu'il puisse manipuler un clone.
Alors, je voudrais juste arrêter. C'est très intéressant, mais là, on rentre dans les théories de Sancienne. Ouais. Ce que je voudrais, c'est qu'on reste sur cette question de Miphos. Vous ne semblez pas d'accord, Garrick et toi. Donc, Garrick et Vincent, vous ne semblez pas d'accord sur le fait qu'il y a dans la rune de Cosmo une part de doute. Et je pense que dans le fond, c'est la relation à la connaissance qui fait différence. Pourquoi ? Alors déjà, il y a un personnage que les gens adorent dans Sens Néant. Et ça, je l'ai constaté en multipliant Théus. Et le deuxième de l'École de Lumière, c'est Lucie. Je trouve que Lucie a un succès fou. Parce qu'elle symbolise une certaine forme de sagesse et de connaissance qui est propre justement à ce que devrait être la science des philosophes, c'est-à-dire celle qui procède effectivement par l'incertitude et le doute. Celle qui a conscience que son modèle est éphémère, est faillible, et que c'est justement pour ça qu'il est beau, qu'il est... En fait, cette science qui tente de décrire la réalité sans jamais dire qu'elle la décrit. Voilà, c'est ça la différence. Donc tu en parlais tout à l'heure. Alors Vincent, toi, t'appelais ça la magie, cette science. Non, justement, la magie, c'est l'inverse. Oui. C'est la science qui dit décrire la réalité.
C'est ça, en fait.
Alors l'appelle pas
le bon terme.
C'est pas, ouais, parce que c'est confusant. Mais je vois bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire que dans la magie, telle qu'on a tendance à se l'imaginer, parce que c'est pareil. Hein. La magie, il y a une vision populaire de la magie, et puis il y a une vision, plus instruite de la magie. Justement, ça tombe bien parce que je fais des études là-dessus en ce moment sur la magie, et je peux te dire que c'est beaucoup plus complexe que la vision qu'en ont les Occidentaux, parce qu'évidemment, on a une vision très obscurantiste, nous-mêmes, les Occidentaux, de la magie. On en a une vision antagoniste, en fait. Voilà. On antagonise beaucoup la magie, mais c'est... Bref, il ne faut pas que je rentre dans ces détails, sinon je vais me perdre. Donc, toujours est-il que toi, tu disais, la science qui prétend dire le vrai, moi je l'appelle la magie, moi Vincent, je l'appelle la magie, parce qu'elle explique tout et puis elle n'a pas besoin presque de se justifier, et puis il n'y a plus de discussion. C'est TGCM, ta gueule c'est magique. C'est la magie en ce sens-là, on est d'accord
Très
Vincent ?
Exactement.
Exactement. Donc c'est la magie devant laquelle on se prosterne sans critiquer, sans pouvoir jamais exercer son esprit critique, puisque de toute façon, elle est comme ça et définie. Pour toi, c'est ça le Cosmo, hein, Vincent, on est d'accord ?
Oui.
C'est cette forme de dogmatisme, etc.
C'est quand même plus nuancé que ça, mais oui. Globalement,
alors que pour Garrick, si je te suis bien, Garrick, j'ai la sensation que pour toi, le Cosmo, c'est la science des philosophes telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire c'est la rationalité au service d'une description toujours plus fidèle de la réalité, mais qui assume le fait de n'être qu'un modèle, qu'une description faillible. Et...
C'est un peu plus compliqué que ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est là où, par exemple, l'école de l'ombre te dira qu'au final, la vérité, au final, elle est au fond de toi. Et par conséquent, elle... À part l'ultime sentiment, il y en a pas une et une seule, quoi. Y a pas un seul chemin pour y aller. Le Cosmo va dire il y a un absolu qui est complètement extérieur à nous, qui va être connecté de façon très 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 serrée avec la réalité. Et en étudiant la réalité selon des processus très rigoureux, qui vivent à l'objectivité. Pour moi, il y a une constante dans le Cosmo qui est l'objectivité plus que la subjectivité.
Voilà.
Et qui est j'essaye de me débarrasser de ma subjectivité.
Donc, voilà. Le Cosmo pour toi, c'est ça. C'est la vue, ce qui tend vers l'objectivité.
C'est une tentative d'essayer d'aller vers l'objectivité. Selon
moi... Tu comprends pourquoi il y a une certaine froideur là-dedans, Jérôme, du coup ? L'objectivité.
La dérive du cosmos, c'est quand tu prétends l'atteindre.
D'accord, ok.
Mais Jay, il continue.
Non, c'est bon, je repasse à Garrick.
Garrick. Donc, du coup, toi, tu opposes... Donc, le cosmos serait l'objectivité. Le chaos serait la subjectivité, alors, c'est ça ? Ce serait ça la dichotomie qui est...
Je sais pas si une opposition comme ça peut vraiment.
Ça colle pas, ouais, ok. On n'arrivera pas à simplifier.
Je sais pas, il faudrait que j'y réfléchisse plus longtemps. D'accord. Pour donner une vraie réponse.
Pourquoi vous, tous les trois, là, Jérôme, François et Vincent, vous avez tendance à faire de ce terme miphosien, cosmo, etc., une certaine forme de. Pas d'insulte, mais de sobriquet ou de.
Alors. Si tu fais gaffe à moi, à part quand je parle de Azilis, Finonfinger ou Wilfried, c'est que des insultes. Hein. Classicerie, pour moi, c'est une insulte. Classicien, c'est pareil. Solipsicien, j'en parle même pas. Enfin, vraiment, moi, il y a plein d'immortels avec qui j'ai des problèmes. Hein. Il n'y a pas que Miphos.
Alors, pourquoi tu as un des problèmes avec Miphos ?
Parce que c'est un dictateur, c'est un autoritaire. Enfin, moi, ça me suffit déjà.
Jay, tu as un problème avec l'autorité. Sérieux ?
Donc du coup, le cosmo, ça c'est intéressant aussi, la dimension politique du cosmo. Du coup, pour toi, le cosmo, c'est aussi ça, quoi. C'est la rationalité qui organise les affaires sociales.
L'ordre.
Ouais. Les CRS, ils sont cosmo ou pas ?
Ils sont morts. Évidemment. Ils sont morts à donf.
Ils maintiennent des institutions.
Tu les as vus. Est-ce que
t'as
failli te faire taper par des CRS ?
Non,
et qu'une fois que ça t'arrive, tu comprends. Et vraiment, peut-être leur chef, ils essayent d'être cosmo, mais eux-mêmes, quand ils agissent, ils sont morts. Ils agissent pas avec le cosmo. Clairement, sur le terrain, quand tu vois qu'ils sont paumés, ils chargent au pif, ils provoquent, ils sont. Enfin voilà, c'est des deux côtés,
quand
ça provoque.
Quand ils chargent.
Oui, mais en fait, ils attendent que ça. Et même avant, ils provoquent. Donc quand ils nassent, quand ils mettent des coups de gazeuse gratuits à des petites manifestantes qui n'ont rien demandé, ouais, je te vois qui fait des noms de la tête, mais oui, ils gazent des gens qui font rien, Vincent. C'est ça la réalité.
Quand je fais non, je veux dire juste que bon, le micro c'était pas l'endroit pour ce débat.
Bah, non, mais si. Moi, on me demande est-ce qu'ils sont cosmos. Moi, je réponds ils
sont
morts.
Moi, je trouve ça très intéressant, au contraire, parce que savoir si les CRS sont morts au cosmo, j'avoue, c'est pas le débat. Mais je vous ai bien posé la question. Mais si, mais ça m'intéresse d'avoir ton opinion, Jay. J'ai bien posé la question, qu'est-ce que Miphos et qu'est-ce que le cosmo représentent dans notre société contemporaine ? Alors, on a eu un premier aperçu dans cette première partie de podcast, d'un point de vue universitaire, sur le plan scientifique, sur le plan de la philosophie de la connaissance, sur le plan épistémologique. Vaguement, on a commencé à parler de la dimension psychologique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit de quelqu'un, toi, t'es cosmos, sous-entendu, t'es quoi ? T'es psychorigide, t'es ultra-rationnel. On n'en a pas encore parlé, mais...
J'avais toujours pas répondu à la première question du podcast. Hein. Qu'est-ce que c'est que miphosien pour moi ?
Alors, ouais,
pour moi, c'est ça, c'est la rectitude, c'est l'espèce de... Ouais, de...
Donc, c'est...
L'organisation, le psychorigide, comme tu dis. Ouais.
Dimension psychologique aussi. Hein.
Les personnes qui organisent tout, qui notent tout, et moi-même, je fais des notes, hein, je note ma liste d'affaires à prendre. Avant de venir à la barreau, j'avais ma petite liste de trucs à cocher. C'est très cosmo, ça.
Tu fais des miphoseries.
Ouais, je fais des miphoseries, ouais.
Donc, voilà. De ce point de vue-là, la rationalité on se retrouve aussi dans cela. Et puis, l'autre dimension dont je voulais parler avec vous, c'est justement cette dimension politique. Qu'est-ce que le cosmo du point de vue politique ?
Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'idéologie du réel ? Ah non, d'accord, je sors. Enfin, si,
je sais pas
tout le monde a déjà entendu parler
non,
de ça.
Non,
non,
non, non, je ne sais pas ce
non.
que c'est.
Ah, je suis le seul... mon Dieu, je sors des termes, je n'ai pas de quoi les baquer. J'ai perdu le nom de l'économiste. Un des économistes atterrés, le plus connu.
Les économistes...
Gary, tu dois pouvoir m'aider.
Des économistes atterrés...
C'est toi qui me l'as fait découvrir.
Si, si. Ah putain, je sais en plus.
Économiste, tu m'en as parlé. Alors, comment il s'appelle ?
Lordon ?
Voilà, merci.
C'était Lordon qui a dit
oui,
ça ?
Oui, c'était Lordon. Okay. Lordon a parlé dans une émission, j'ai trouvé ça sur YouTube une fois, de l'idéologie du réel. Et pour moi, ça démontre très bien une tendance actuelle. Et dans la terminologie, il y a quelque chose qui démontre bien que c'est quelque chose de très cosmo. C'est cette tendance politique à... sortir des faits et à vider le politique de tout ce qu'il peut avoir de valeurs. J'entends par là des valeurs morales. D'enlever de la politique tout ce qui est du domaine de l'idéal et de la quête vers une évolution de la société en partant de l'idée que le monde est tel qu'il est. Sous-entendu, on ne peut pas le changer. Ce qui est au fond une idée excessivement conservatrice.
Bien sûr. Ouais.
Donc derrière le cosmos, je vois ça aussi.
J'abonde dans ton sens, et c'est assez visible quand on voit les penseurs un peu libéraux, macronistes et compagnie, qui se voient comme des gestionnaires, tout simplement.
Ouais. Ah non, mais nous, on ne fait pas de politique. Ah ben si, mon pote, quand tu prends des décisions pour augmenter les profits de ta boîte, tu fais de la politique, hein, directement.
Voyons, c'est de la gestion pour améliorer les process, pour que ce soit plus efficace.
Ah non, je gère en bon père de famille. Ben non, c'est plus simple que ça. Ouais. Les gens qui prétendent ne pas faire de la politique sont politisés, mais ils ne savent juste pas...
Tout est politique.
Voilà,
mais autant ça participe d'une vision cosmo, autant je ne suis pas sûr que ça participe d'actes qui sont cosmo.
Voilà. Parce que le conservatisme, d'une manière générale, c'est pas le cosmo aussi.
Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il se donne l'apparat du cosmo, mais qu'il ne l'est pas. En fait, c'est la mort qui s'est mis à fauner.
Alors là, je suis entièrement d'accord avec Jay.
J'abonde dans son sens aussi.
Vous allez donc pouvoir m'expliquer ce qui a toujours pour moi été un problème dans Sens Mort, à savoir que j'ai toujours vu beaucoup de cosmos et de néants plus que de morts dans la société sélénite. Allez-y, expliquez-moi.
Vincent.
La mort, c'est la tragédie. Mm-hmm. La société sélénite, factuellement, les gens sont morts, dans le sens morts en dedans. Mm-hmm. Ce ne sont plus des humains. Parce qu'ils ne se remettent jamais en question. Ils acceptent une fatalité, une tragédie qui est leur réalité. Mmh. Et ils refusent de se rebeller contre ça. Je vais faire quelque chose que je ne croyais jamais faire dans ma vie. Je vais défendre le cosmos.
Viens, rejoins-nous.
La partie cosmo de Séléné, bon, c'est évidemment d'oxystérone. Je pense que là, on est tous d'accord là-dessus.
Oui.
Elle est matinée de mort aussi.
Oui, complètement.
Et le cosmo, en fait, dans notre réalité, c'est à la fois ce qu'il pourrait y avoir de pire, mais aussi ce qu'il pourrait y avoir de meilleur. C'est-à-dire que le cosmo, c'est à la fois Emmanuel Macron, quand il agit en tyran, en disant « venez me chercher », mais c'est aussi...
Ça, c'était un peu créa quand même comme move.
Bref. Mais c'est aussi la personne qui va réfléchir à comment... Je ne sais pas, je vais prendre un exemple totalement au hasard qui ne parlera pas à la cellule. Comment améliorer le monde en passant par du game design. C'est très cosmo comme attitude.
Je ne sais pas.
Et puis tu as leurs opposés qui se demandent comment faire du game design pour gagner du pognon dans le monde.
Ça, c'est moi, ça. C'est mon côté commercial.
Ah, pardon. Je pensais à quelqu'un d'autre.
Garrick.
En fait, tu reparles d'oxystérone. Je m'étais amusé un moment sur le forum, essayer de raconter des petites histoires inspirées du climat sélénite. Une des premières que j'ai écrites, que j'ai affectionnées beaucoup, elle résultait d'un questionnement que j'avais avec. Où je me rappelle, on se chamaillait un peu sur Sens avec toi, François. Peut-être parce que justement, tu voyais du cosmos partout quand moi j'y voyais autre chose. Mmh. Et donc, cette histoire, elle tournait autour d'un professeur de doxystérone qui est la risée de tout le monde. Parce qu'en fait, tout le monde a accepté Cosmo et Rebirth, c'est la vérité, les faits, c'est la vérité, Miphos détient la vérité absolue. Ouais. Et lui, il est professeur, et lui, il est rationnel, il est vraiment Cosmo, quoi. Mais il dit, moi, j'y crois pas à sa démo, elle ne tient pas debout, j'attends d'être encore convaincu. Et tout le monde se moque en lui disant, mais tu as un obscurantisme, tu ne veux pas réaliser la vérité, tu ne veux pas réaliser comment sont les choses. Et lui, il dit, mais je ne demande qu'à connaître la vérité, mais convainquez-moi que c'est la vérité. Et pour moi, c'était une lecture que j'avais d'oxystérone. C'est-à-dire que. Alors, ça fait un peu écho à quelque chose que j'écris un peu dans Complot à un moment. C'est. Il y a un moment où les scientifiques sont plus vénérés que la science. C'est-à-dire que ce qui va déterminer de qu'est-ce qui est vrai, c'est plus tellement ce qui est dit que qui le dit. Miphos dit c'est vrai, donc ça doit être vrai. On ne cherche plus à essayer de comprendre sa démonstration. Si tu lis dans le monde logique, t'as un débat entre deux bons cosmos, t'as un débat entre Miphos et t'as un débat entre Soren. Enfin, t'as ces deux-là qui se disputent. Ouais. Et ils sont assez cosmos, donc ils sont rationnels, ils essayent d'être bien objectifs, etc. Et t'as Miphos qui dit, mais j'ai raison, regardez comme j'ai raison. Et Soren lui dit, mais attention, fais attention, regarde, Wittgenstein, ça tient pas debout à certains points, il y a des choses qui te contredisent. Et Miphos, c'est quoi sa réponse? C'est pas de dire, ça. Ah, objectivement, effectivement, il y a des choses à revoir. C'est de dire non, j'ai raison. Et Wittgenstein, il avait rien compris au final.
Alors, c'est le pire, c'est que Wittgenstein n'avait rien compris à lui-même. Parce que, en fait, en réalité, l'argumentaire que Soren donne à la fin, c'est l'argumentaire de Wittgenstein à la fin du Tractatus. Donc, en fait, c'est le premier, c'est la lecture du Tractatus du Cercle de Vienne, celle de Miphos, contre le vrai Wittgenstein qui est symbolisé en fait par Soren Solipsis dans le monde logique. Jérôme.
Un autre petit élément pour te répondre, François, sur ta question. Sélénée, c'est la souffrance de personnes qui vivent. Le cosmos, c'est la respiration.
Ouais.
Réglé comme du papier à musique. Et qui n'a plus à s'inquiéter du fait d'être vivant, sauf pour le singer éventuellement.
Oui, oui, non, mais le côté souffrance est bien présent sur Sélénée, mais c'est tout le côté apparat et vie vide de sens que j'aurais plus tendance à associer à du néant ou éventuellement à du cosmos qu'à de la mort. Parce qu'en fait, les gens qui souffrent, c'est ceux à buveurs. À part ça, on peut avoir quelques événements où l'idéologie sélénite mène à des choses un peu mortelles, des jeux télé un peu bizarres, voilà, ce genre de choses, des scénars récurrents. Mais si on voit ce qui est décrit dans le bouquin, la tragédie dans le sens mort, elle passe aussi par des nobles qui vont se marier par intérêt,
mais
et non par amour.
Le nihilisme et la décadence, et tout ça, ça peut être
des géographes qui sont aveuglés par une certaine vision du monde, ce genre de choses-là. Il n'y a pas de mort présente dans ça, de manière évidente, je trouve. Mais
j'aurais tendance à dire que il y a deux manières de voir le cosmos. Il y a le voir comme la rationalité, c'est un peu ce que fait Garrick dans ce podcast, et puis il y a le voir comme le rationalisme, et puis c'est un peu ce que tu fais, Vincent.
Tout à fait.
Et c'est pas tout à fait la même chose. La rationalité, tous les hommes peuvent en faire preuve pour démontrer telle ou telle chose, avancer sur tel ou tel point. Généralement, on utilise plutôt notre rationalité pour atteindre un objectif donné, et donc on va s'interroger sur les meilleurs moyens pour atteindre cet objectif. L'objectif, par ailleurs, n'est absolument, la plupart du temps, pas du tout rationnel. Donc on utilise, c'est un outil humain, alors que le rationalisme, il me semble que c'est utiliser cet outil, c'est faire de cet outil humain, qu'est-ce que tu veux
dire ? Un dogme.
Un dogme, ouais, voilà, ou une finalité, ou un idéal, un absolu. Et la question, c'est le cosmos, alors. C'est la ration, dans le sens. Et quand vous sortez, là, comme une insulte miphosien, machin truc, vous faites référence à quoi ? À la rationalité ? Sous-entendu, Jay, t'es trop rationnel, Garrick, t'es trop rationnel, ou alors t'es trop rationaliste ? Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est pas la même chose.
En fait, je pense que c'est ça qui est plus ou moins drôle. C'est qu'on est dans la vanne, hein, dans le surnom, le sobriquet. Et ce qui est drôle, c'est que Garrick est dans la rationalité.
Ouais.
Et on le traite de rationaliste.
On le traite de rationalisme.
C'est ça.
C'est cet absurde qui est drôle pour nous.
Et Garrick, ton point de vue, c'est que dans Sens, la rune de Cosmo est présentée comme la rationalité et non comme le rationalisme.
C'est l'inverse, non ?
Dans Sens, sachant que dans Sens, on n'a pas forcément un point de vue objectif, on a très souvent le point de vue de Classis.
C'est vrai.
Dans Sens, le cosmos nous est présenté comme équivalent et voire même égal à Miphos, et Miphos, c'est clairement le dogme.
D'accord, donc le rationalisme.
Bon,
donc
enfin,
le
rationalisme. Pour défendre Classis, quand Classis présente le cosmos, c'est la lumière et c'est vachement plus sexy.
Voilà, quand on est dans Néant, la lumière, pour le coup, c'est beaucoup plus mesuré.
Ouais,
Deus, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la raison et l'objectivité, mais qui n'est pas dans le dogme, pour le coup.
Ceci dit, il est présenté comme un des rares lumières à ne pas être dans le dogme.
Voilà. Bon, quand on regarde les autres,
il
l'école
est
de lumière,
mais marginalisé pour moi, dans son école.
Pour moi, en fait, qui... dans Néant, ce que Classis, au travers de cette école de lumière, nous dit, attention, voilà. Vous voyez, la lumière, c'est super,
c'est ça,
mais attention,
regardez Melbius.
À l'intérieur de la lumière porte les graines de sa propre corruption par le dogme. Mais je pense que toutes les runes ont ça, c'est-à-dire que si on prend la vie en elle-même a les graines de sa propre corruption par d'autres moyens.
Jérôme, alors, Vincent.
Moi, il y a quelque chose qui me frappe là, avec cette discussion, c'est à quel point Miphos est une excellente incarnation personnelle.
Ouais. Je le dis depuis des années.
Vraiment, dans le sens où Classis à côté, c'est... Pff, c'est zéro, quoi. Mais en même temps, Classic, on n'est même pas sûr de quelle incarnation ce serait entre Néant et, voilà, et Créa, tout ça.
Classic, c'est très bien dans son rôle, mais son rôle n'est pas que d'être incarné.
Voilà. Et quand on fait un débat sur Classic, on parle de Classic. Là, quand on parle de Miphos, on n'arrête pas de parler du Cosmo.
Ouais.
Ouais, et pour le coup, c'est tellement l'incarnation du Cosmo en ce sens-là. Oui, on peut pas parler de lui sans parler de son de sa rune, de son élément.
C'est aussi qu'il est défini beaucoup par ça, là où d'autres vont être définis par d'autres aspects.
Peut-être aussi parce qu'il est défini essentiellement par ses adversaires,
ouais,
dans l'hexalogie, et que
chaque fois,
Soren, elle est pas mieux et pas plus sympa que Miphos. Parce qu'elle prend des gamins qu'elle manipule pour les transformer en armes.
Oh.
Et en armes de destruction massive, la fin nous le dira. qu'en fait, c'est tout ça, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, sauf les bugs.
Et à la fin, quand Miphos,
il n'y a que les bugs qui sont les méchants.
Non, mais les bugs ne sont pas méchants.
Quand Miphos essaye de la prendre en défaut à la fin et qu'il la met devant ses arguments, qu'il dit « Vas-y, raconte-moi, t'es sûr, Soren, que t'as pas pris des gamins pour les endoctriner ?» Et elle est pas en mode j'ai raison. Elle, non, je sais pas, c'est arrivé comme ça. Je me suis levé un matin, il y avait des bugs dans mon salon. Enfin, what, Soren, hein? T'es pas un peu menteuse?
En fait, c'est pas un problème même de mentir ou quoi. C'est que ils sont tous les aspects d'une même personne, d'un même être, et que par définition, ils ont tous les mêmes qualités et tous les mêmes défauts. Mais je dois quand même concéder à Miphos que c'est probablement l'incarnation runique la plus efficace. Peut-être pas la plus...
Et c'est pour ça qu'il est le plus employé dans les conversations. Tu vois, il me semble... Parce que j'entends rarement dire... j'entends rarement dire de quelqu'un qui dit « Ah, t'es tellement solipsiste, tu vois, ou t'es tellement Finumfinger. » Miphos, c'est vraiment le seul qui catalyse comme ça, qui devient presque un adjectif, en fait.
Finumfinger, ça m'est arrivé avec
les joueurs. Ça m'est arrivé aussi, ouais, effectivement. Ouais, ouais.
Est-ce qu'il y a un équivalent du point Godwin version Miphos?
Oui, mais justement, c'était une
de mes questions. C'est lui le nazi.
C'est une
ça
de
s'appelle
mes questions.
Le point Cosmo.
C'est ça, exactement, c'est une de mes questions.
Indéniablement,
est-ce que,
dans le débat sur le cube, on arrive à un moment à citer Miphos.
Oui, mais
j'ai le point Cosmo.
Et je remarque que souvent, ça arrête d'une certaine manière, ça arrête souvent la conversation.
Non, ça, même Godwin, il a dit qu'il faut arrêter avec ça.
Oui, oui, bien sûr, mais c'est bizarre d'aboutir à cela. Et donc, du coup, on n'a pas répondu sur l'aspect politique des choses. L'ordre, qu'est-ce que serait une population Cosmo? Qu'est-ce que ce serait? Quelle serait la représentation? Est-ce que c'est une dictature?
Alors, pour moi, la vie en prison.
Ou est-ce que...
Pour moi, ça peut prendre deux aspects différents, parce que là, tu parles d'ordre. Tout à l'heure, on parlait de cette espèce de rationalisme et de ce que j'appelle l'idéologie du réel, qui donne, pour moi, un aspect de ce que le Cosmo peut donner en politique.
Ouais.
L'autre aspect, c'est le conservatisme, entre guillemets, religieux, ou sur des valeurs morales implantées dans une société avec éventuellement un fort nationalisme, enfin, quelque chose comme ça qui va regrouper les gens autour de valeurs communes fortes, qui ont pour but de stabiliser l'ensemble de la société. C'est à ce moment-là que, et du coup, on peut aboutir à des formes dictatoriales ou autoritaires.
Ça, j'ai l'impression qu'on peut le trouver dans toutes les runes. Hein.
Voire, pas forcément autoritaire, mais une société très ordonnée, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais pour aboutir à une société très ordonnée avec les sociétés de nos jours, il faudrait passer par quelque chose d'autoritaire. Je pense. Mais bon.
J'ai quand même l'impression qu'on pourrait le faire avec toutes les runes. Ça. On pourrait faire des trucs très mortifères ou très vie, où tout le monde, pareil, s'agglutinerait autour d'un truc commun, d'une espèce de ciment social.
Il y a même un espèce de paradoxe dans le sens qui est que Miphos est à la tête d'une démocratie et Soren à la tête d'une armée.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est vraiment un paradoxe? Parce que les paradoxes, c'est aussi de la logique.
Pour la démocratie par Miphos.
Pour développer ce que je disais sur la vision de la société. Qu'est-ce que ce serait une société Cosmo ou une vision de la société ou de la vie en général, d'une organisation de vie personnelle Cosmo? Moi, je comparerais ça à la vie en prison ou l'ancienne vie monastiale, parce que la prison est basée là-dessus. Hein, je rappelle, sinon lisez Foucault. Oui, c'est Foucault. Bref, surveiller et punir. Mais ce côté, le lever sera le réveil à 6 heures. Le lever, 6h15. Le lit sera fini à 25. À 30, nous serons dans le couloir. Le lundi, nous mangerons ça, sauf le quatrième lundi du mois. et etc., etc. Et vraiment, l'ordre dans le sens où...
L'horloge.
Le métronome.
Le métronome, oui, voilà.
Et
moi,
maître des horloges, oui.
Je verrais pas mal comme ça. Et effectivement, plutôt comme un moyen, que, comme tu disais, Romaric, je suis assez d'accord qu'une fin en soi, parce que ça peut servir tout type de projet, ça, en fait. À mon avis, le Cosmo n'est pas intrinsèquement genre de droite, de gauche ou conservateur.
Mais on peut le dire du chaos aussi.
Oui.
Et c'est pour ça qu'ils sont au centre du cadran et qu'ils ne sont pas, tu vois, qu'ils sont que des conséquences secondaires. Je ne sais plus comment vous l'aviez formulé la dernière fois, mais c'est qu'en fait, dans le fond, le Cosmo et le chaos ne sont pas des fins en dans Game of Thrones et puis dans Les Marches du pouvoir de Manuel Bedouet. Il y a cette citation de Finger, mais de Littlefinger, où il dit le chaos n'est pas une abîme, le chaos est une échelle. C'est-à-dire le chaos est un moyen d'obtenir des biens. Et le cosmos, c'est la même chose, en fait. Le cosmos, ça peut être un abîme mortifère quand ça devient l'horloge glacée qui n'évolue plus, etc. Mais ça peut être aussi le moyen d'atteindre quelque chose.
Donc, l'éducation.
Voilà. Je sais pas.
L'éducation cosmo.
Ouais. La socialisation.
Ouais, c'est vrai que l'acquisition du savoir, oui, mais. Bah,
je veux dire, une certaine forme d'éducation ouais. Et cosmo.
Alors, pas une forme, à l'esprit critique, une partie hein. De l'éducation.
Si je suis sachant et que je vais te transférer mon savoir, moi sachant, à toi ignorant, c'est très certainement quelque chose d'assez cosmo. Si je suis
le
en
but,
train
c'est
de dire.
Faire développer un esprit critique, c'est
ensemble, découvrons quelque chose d'intéressant. Et je vais t'accompagner dans la découverte de quelque chose. Pour moi, on n'est plus du tout dans le cosmo.
On est dans la créa, là.
Ouais.
On est dans la créa.
Peut-être.
Je te le concède, c'est vrai.
Le chaos, c'est l'initiation du changement. Je vais te changer. Viens avec moi et tu changeras. Viens avec moi, je vais révolutionner.
Moi, j'ai quand même du mal quand tu disais tout à l'heure qu'on ne peut pas dire que le chaos et le cosmos soient intrinsèquement de droite ou de gauche. Enfin, après, ça dépend des définitions
c'est moi qui
a de droite et de gauche.
C'est Jérôme.
Parce que c'est des notions qui peuvent être assez floues. Pour moi, quand même, le cosmos est très lié aux valeurs de droite et le chaos très lié aux valeurs de gauche.
Mélenchon, il est très cosmo, très autoritaire, il a aucun problème avec ça.
Non, mais faut arrêter. Les seuls qui disent de Mélenchon qu'il est cosmo, c'est ceux qui sont plus à gauche que lui, tu me donnes raison.
Tout le monde est plus à gauche que lui.
Macron compris.
Moi, je voudrais revenir sur l'horloge froide, etc., ouais. Qui serait très cosmo. Alors, j'ai pas une affirmation à donner, mais j'ai une question à poser. Vous savez, il y a des phénomènes dans la nature, dans les mathématiques, ailleurs, des phénomènes qui, quand on les regarde à une échelle très locale, c'est le bordel. Genre, par exemple, tu as des nombres périodiques, ils sont périodiques, mais alors la période, c'est 3 millions de chiffres. Et donc, si tu regardes à l'échelle de 100 chiffres, tu as l'impression que c'est le bordel, que c'est le chaos. Tu prends assez de recul, tu te rends compte qu'il y a des périodes, tu te rends compte que les choses sont très organisées, très savamment. Et alors là, du coup, on est dans le cosmo ou on est dans le chaos ?
Dans le cosmo rampant.
En fait,
celui qui se cache.
Le cosmo, pour moi, va être la recherche de cet ordre et le chaos dans l'acceptation du désordre ambiant et
alors
dans la non-quête de ses motifs.
L'adaptation aussi.
Oui.
L'adaptation, le chaos. N'oubliez pas que le chaos, ça sert aussi à s'adapter au chaos, dans le sens, c'est clair, hein, la compétence, j'entends, la rune en tant que compétence chaos, c'est aussi celle qui permet de s'adapter
au
bordel. Quoi.
C'est de ne pas chercher le motif, de ne pas chercher à prévoir, et du coup de s'adapter sur le coup à ce qui vient. Quoi.
Voilà, exactement.
Je reprends tes mots que tu avais dit dans un podcast il y a très longtemps, Romaric, parce que moi, ils m'ont marqué, et vraiment, ce n'est pas dit dans les bouquins. Et moi, ça m'avait frappé, parce que de l'avoir entendu que en podcast, et je le répète, c'est aussi le chaos, c'est de ne pas avoir peur de changer.
Ouais. Tout à fait. Tout à fait.
C'est quand même plus de gauche que de droite, hein, je suis désolé. Ah,
effectivement, mais tu peux être de gauche et conservateur, autoritaire, hein, y a pas de problème. Hein.
Oui, oui, mais c'est ça vient
en fait,
des problèmes de définition de la gauche et de la droite.
La gauche et de la droite, c'est ce qu'il a dit au départ. Ouais, okay. Garrick.
Je vais renchérir un peu là-dessus. Je m'en fous un peu en fait, de savoir si le cosmos est de gauche ou de droite. moi, ce qui m'intéresse, c'est. Je vais parler un petit peu de ce que je fais en recherche en ce moment. J'essaye de faire des systèmes logiciels qui peuvent évoluer. Mais moi, mon but, c'est que ces évolutions-là, on puisse s'y adapter quand on veut. C'est-à-dire que je ne sais pas a priori de quoi le futur de mon logiciel sera fait et je veux pouvoir changer des choses dedans. Mais si je ne sais rien, mon logiciel est complètement imprévisible. Je peux donner aucune garantie sur les services qu'il va fournir et donc mon logiciel est complètement inutilisable. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est un cadre, de donner une sorte de fournir un cadre vraiment dans lequel toutes ces évolutions sont données, mais je vais pouvoir poser certaines contraintes. Donc il paraît que sans contraintes, on peut pas vraiment être libre. Donc je vais donner des contraintes qui vont me permettre d'utiliser un logiciel, d'avoir une certaine confiance dedans, mais de pouvoir évoluer, m'adapter à des besoins. Et pour moi, on est dans quelque chose qui est une démarche quand même assez cosmo. J'essaie de comprendre, d'avoir des garanties, d'avoir des choses très strictes. Et pourtant, on va trouver des notions d'adaptabilité, d'évolution.
Attention, il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est que l'ordre, le cosmo et le chaos, ce sont des mots qui sont grecs. Et donc, on part d'un point de vue, d'une certaine vision aussi du monde. Enfin, en physique quantique, ou si on... Comment dire ? Il faut aussi savoir reconnaître que parfois, certaines distinctions ont une part de kitsch. Que c'est kitsch, quoi. Il y a des moments où tu peux pas juste appliquer la grille de sens pour expliquer ce qui se passe. En l'occurrence, c'est ça.
Je suis pas en train de dire que ça s'appliquerait à tout. Hein. Mais j'essaye de pousser un petit peu les raisonnements dans leur retranchement, parce que c'est comme ça qu'on en fait émerger une part de vérité, qu'on découvre des choses. Et donc, moi, ce que j'essaye de dire avec ces chiffres, en posant cette question-là, tout à l'heure, en disant il y a des chiffres qui sont périodiques, mais si on regarde à l'échelle locale, on n'arrive pas à comprendre. C'est tous ces systèmes qui, en fait, visent une certaine forme d'harmonie, mais une harmonie qu'on comprend, qui serait un peu organisée. Tous ces systèmes-là, au final, ça va tellement dépendre de la lecture de chacun. Quoi. Des gens vont me dire oh, ben, c'est complètement chaos, ça s'adapte à tout. Et d'autres vont me dire c'est complètement cosmo. Tu as essayé de comprendre comment ça s'adapte.
Ouais, d'accord. Le fractal, par exemple, tu parlais de ça tout à l'heure. Les géométries fractales. Alors, c'est quoi ça ? C'est du cosmo ou c'est du chaos, pour faire simple.
C'est de la géométrie. C'est cosmo.
C'est cosmo pour toi, c'est indéniable. Quoi,
c'est des motifs qui se répètent.
C'est infini.
Ouais, c'est des maths en plus, donc c'est cosmo quoi.
Ok. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais pourtant, quand on voit les motifs que ça crée un sentiment de vertige bizarre. Enfin, le kaléidoscope.
Ouais, ça, c'est l'admiration face à ce que le réel peut créer de motifs et de sens. Ça, pour moi, c'est un vertige qui est très cosmo.
D'accord, ok.
C'est le vertige de l'admiration que le cosmo peut avoir envers le monde, envers les maths. Nombre de mes amis ingénieurs et mathématiciens ont une espèce de vénération des mathématiques comme étant quelque chose de sacré en dehors du monde. On a déjà eu cette discussion de savoir si les mathématiques étaient créées par les hommes, un langage, ou si c'était quelque chose d'inhérent à la réalité, enfin ce genre de choses.
Ouais, vision platonicienne.
Donc il y a quelque chose de presque sacré dans les maths pour certains. Et pour moi, la sacralisation des maths, c'est quelque chose qui est fondamentalement cosmo.
D'accord. Très bien. Vincent, tu voulais rebondir sur ce que disait Garrick à un moment donné, puis je crois que c'est passé. Ok ?
Non, la seule chose quand même, Vincent, c'est le labyrinthe à la fin. Je sais pas si c'est dans les livres ou si c'est moi qui me le suis imaginé.
Non, c'est...
Mais vraiment, c'est nul n'entre ici s'il n'est géomètre.
Ah oui, il n'y a pas cette phrase décrite.
Je ne sais pas pourquoi je l'ai vue.
Elle est quelque part, je crois.
Et je trouve qu'elle convient.
Elle est dans le chemin, là, le petit jeu d'énigmes qui est sur le site de Sens Exalogie.
Voilà. C'est pour ça que tu l'as.
Mais elle n'est pas dans le passage. Elle convient tellement à Miphos. Et elle est tellement vraie. Et tellement... Quand je dis ça, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif. C'est que le géomètre, c'est celui qui va constater et chercher à observer la réalité. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Il va chercher à comprendre ce qui se passe autour de lui. Et je trouve que ça lui convient aussi très bien.
Il est dans la rationalité.
Exactement. Mais je ne le reconnaîtrai jamais en public.
Jérôme ?
Je vois plus ce géomètre comme quelqu'un qui mesure que comme quelqu'un qui cherche à comprendre, mais...
Je suis assez d'accord. Juste sur un point de terminologie, effectivement.
Bon, mais je ne suis pas...
Attention, c'est une phrase qui est célèbre, qui était de l'école de
Platon.
Pythagore.
Pythagore, non, Platon.
Non, Pythagore. C'est les pythagoriciens.
C'est les pythagoriciens qu'on... Oh, alors là...
Ah oui, d'accord, donc oui. Au niveau historique, du coup, oui, c'est pas la même chose.
C'est vrai. Ce que disait Garrick, c'est vrai, c'est que c'était la réponse sur le chemin.
Oui, puis t'as fait un...
À l'énigme du chemin.
L'énigme, c'était de... au-dessus de cette école, il est marqué que nul n'entre ici s'il est géomètre. La réponse était Pythagore.
Ok.
On spoil le chemin ici maintenant.
Ouais, c'est ça, carrément. Ouais.
Le chemin est encore accessible en vrai.
Oui.
Oui, ouais. Tout à fait. Ouais, ah bon. Ouais. Tu peux le trouver en bas du site internet. Il y a un tout petit onglet arpenté.
Cool.
Ouais. Ok. Bon. Eh bien, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette question. Qu'est-ce que ça signifie pour vous être miphosien ou, je pense que là, on a bien défriché le terrain. On n'a presque pas parlé du personnage de Miphos dans la fiction, finalement. On a juste...
Ouais, c'est ce que je voulais faire remarquer tout à l'heure, c'est fou. Hein.
Ouais. Ah oui, 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 c'est vrai que c'est...
En même temps, le personnage de Miphos dans la fiction, il apparaît trois fois.
Pourtant, il y a plein de choses à dire.
Moi, j'ai vraiment envie de faire ce podcast sur
Miphos. On en parlait il y a pas très longtemps.
Un jour, il faudra le faire.
C'est quelqu'un qui découvre ce que c'est que l'amour avec Wilfried, quand même.
Il n'est pas dit qu'il a des amants avant ?
Moi, je pense surtout qu'il a été amoureux d'une personne
oui,
avant et qu'il a été très trahi.
Jusqu'à Wilfried, au final, à chaque fois, son amour va que dans un sens.
Mais c'est encore
il
loin.
Il l'aime, mais personne ne l'aime en retour. Mmh. Ou pas à la hauteur de ce qu'il aurait besoin.
Ouais. Oui, c'est possible.
Jérôme ?
Et puis, toujours l'histoire que maman, elle préfère mon petit frère.
Maman, elle préfère mon petit frère.
Je suis tellement triste.
Ah oui, il y a ça aussi.
C'est moi qui récupère mes vêtements et tout.
Le final de. Enfin, la scène finale d'Adeline Kadria est d'une violence terrible, je trouve. Je pense que c'est une des scènes dans le sens que j'ai trouvé les plus psychologiquement violentes pour les gens présents.
Tu lis cette scène au moment où tu me la lis. Moi, je suis passé de. Mais Faust, mais c'est un vrai connard! Ah, oh mais le pauvre!
Sérieux?
Le statut parce que
pour moi, au contraire, c'était vraiment le.
C'est ce que tu disais, Vincent. C'est juste ce que tu disais, le statut de Miphos. Enfin, Miphos est une victime. Pardon, excuse-moi, Jérôme, je t'ai interrompu du coup.
Non, mais moi, c'était un peu l'inverse. Le fait de lire ce passage, c'était. Ah ouais?
Il fait souffrir l'humanité tout entière parce que.
Mais ouais, on dirait l'autre que. Ouais, on m'a pas pris aux beaux-arts, c'est la faute des juifs, quoi. Enfin, les gars, calmez-vous, quoi.
Ouais. Après, quand on veut engendrer un dictateur, on s'inspire de ceux qui ont
existé. Hein. Le background de Williamson, tu vois, Willy est vachement plus classe, quoi. J'ai survécu dans les décombres et tout en bouffant le sang des rats. J'ai été recueilli par. Enfin, voilà, quoi, tu vois. C'est... Mais bon, c'est les deux grands méchants, donc ça se tient bien, c'est cool.
Merci à tous. Bonne petite présentation de ce que c'est le miphosianisme, il faudrait l'appeler comme ça, je sais pas, ou de ce que ça signifie en fait quand on dit à quelqu'un ouais toi t'es trop cosmo, etc. Merci Jérôme, merci Garrick, merci Vincent, merci François, à très bientôt, portez-vous bien et surtout jouez bien, salut,
salut,
salut, salut, salut.